vais passer la parole à Ariane Menu, qui utilise le traitement automatique, l'intelligence artificielle, des langues, mais cette fois-ci pour repérer des mots-clés dans un vaste corpus de textes. Mais je lui donne la parole tout de suite pour qu'elle vous explique ça beaucoup mieux que moi.
Bonjour à tous. Donc oui, en effet, là, on va s'éloigner de la question de la traduction pour voir comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être une aide à la recherche. Et ceci au travers de l'exemple de l'expérimentation du traitement automatique des langues appliqué au rapport d'opération archéologique au sein du projet Arche à l'INRAP. Donc, est-ce que ça marche ? Parfait, parfait. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, quelques éléments introductifs. Donc, l'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. C'est un établissement public qui réalise, entre autres, des activités d'archéologie préventive. On parle d'archéologie préventive parce que ce sont des opérations qui sont réalisées en amont de travaux d'aménagement du territoire. Et à l'INRAP, chaque année, ces opérations sont au nombre environ de 2200 et il y a également un nombre équivalent de rapports de ces opérations qui sont générés. Donc, les rapports d'opération, ce sont des documents qui sont importants parce qu'ils vont venir décrire l'opération archéologique, mais également en tirer une première analyse, en tirer des premiers résultats. Et ce sont des documents qui sont d'autant plus importants que les données archéologiques, le site, va par la suite être détruit par les fameux travaux d'aménagement du territoire. Et les rapports d'opération peuvent faire, pour les plus brefs, on va dire quelques dizaines de pages, mais pour les plus conséquents, on peut facilement se retrouver avec des rapports qui vont faire plusieurs centaines de pages, voire plusieurs milliers. Donc, au fil des années, vous imaginez bien qu'à l'INRAP, on a constitué un fonds qui est assez conséquent de ces rapports d'opération. De plus, c'est un constat qui dépasse même le simple rapport d'opération qui peut être appliqué à toute l'archéologie et même à toute la science de manière générale. Mais comme vous le voyez, déjà en 1999, Jean-Claude Gardin, qui est l'un des pères de l'archéologie computationnelle, il soulignait le déséquilibre croissant qui existait entre, d'une part, la quantité de littérature archéologique croissante et, d'autre part, le temps que chaque chercheur peut dédier à faire la lecture de cette littérature. Et un peu plus récemment, Andrew Bivan parlait quant à lui d'un data déluge que connaissait l'archéologie, donc vraiment d'un déluge de données qui vont venir inonder les chercheurs. Et une fois de plus, c'est quelque chose dont on a déjà évoqué la nature ce matin. On a vraiment une augmentation croissante de la donnée scientifique. Comment est-ce qu'on peut justement accéder à ces données scientifiques, à ces rapports d'opération à l'INRAP? Ils peuvent être consultés dans l'Institut via la plateforme Dolia, qui est une plateforme qui est quand même assez efficace pour rechercher ces rapports d'opération, parce qu'il y a une recherche qui peut être faite de plusieurs moyens. On peut faire de la recherche sur différents champs qui ont été renseignés à propos de ces rapports d'opération, donc par exemple les auteurs, la notice, le titre, etc. Sachant qu'on peut également utiliser des opérateurs booléens, je précise, pour faire des recherches plus complexes afin d'avoir de meilleurs résultats. On peut également faire de la recherche par mots-clés, avec donc des mots-clés relatifs au lieu, au sujet, au peuple et aux éléments de chronologie qui sont tous alignés sur le Thesaurus Pactols qui est développé par le réseau Frantic. Et on peut également faire de la recherche en plein texte sur nos rapports. Mais donc si jamais c'est un système qui est efficace, on peut voir déjà qu'il y a des pistes d'amélioration. Parce que, imaginons que moi, mon dada, ce sont les gobelets du 8e siècle de notre ère et que j'ai envie de trouver tous les rapports d'opération qui parlent de ce sujet précis. Si jamais je fais de la recherche par mots-clés, je peux m'amuser à cocher gobelets, je peux m'amuser à cocher 8e siècle, mais je n'ai aucune assurance, je n'ai aucune certitude que les deux termes seront concomitants dans le rapport. Peut-être qu'il y aura des gobelets, peut-être qu'il y aura du 8e siècle, mais peut-être pas des gobelets qui datent du 8e siècle. Pour ce qui est de la recherche plein texte, c'est encore plus hasardeux parce que, donc évidemment, il y a différentes manières de désigner cette chose dans les rapports d'opération et, de manière plus générale, avec la recherche plein texte, on se heurte à des problèmes de polysémie et de synonymie parce que, par exemple, le mot vase peut très bien désigner un objet que un dépôt terreux. Et pour ce qui est de la synonymie, si jamais je reprends mon exemple avec le 8e siècle, eh bien, rien que pour le 8e siècle, on peut créer ça de plein de façons différentes. Par exemple, on peut utiliser des chiffres romains, on peut utiliser des chiffres arabes, on peut écrire ça en toutes lettres. Siècle, ça peut être abrégé ou non. On peut, en plus, après, il y a encore toute la question des périodisations. Si on commence à parler du début de l'époque médiévale, du début du Moyen-Âge, enfin bref, c'est de plus en plus complexe. Mais je vais vous demander donc de garder en tête ces pistes d'amélioration, mais pour revenir, conclure même sur Dolia, si jamais Dolia répond aujourd'hui de manière plutôt satisfaisante quand même au principe FAIR, à l'INRAP, il se pose la question en ce moment du rapport d'opération en lui-même. Donc on dépasse comme ça le moteur de recherche des rapports et vraiment de se focaliser sur le rapport lui-même en tant que document et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. C'est ici qu'intervient entre autres le projet ARCH, qui est un projet FNSO porté par l'INRAP au travers d'Emmanuel Brias et qui est réalisé en collaboration avec l'infrastructure de recherche METOP de l'Université de Caen-Normandie. C'est un projet qui vise à étudier la transformation de la chaîne de production éditoriale des rapports d'opération afin de fériser leur contenu, notamment en matière d'interopérabilité et de réutilisation de leur contenu. Concrètement, cela consiste à faire un encodage d'un corpus texte d'une douzaine environ de rapports d'opérations issus d'une collection appelée les documents d'archéologie préventive, qui sont des rapports de référence de l'Institut. Et donc, ces rapports, ils vont être encodés en XMLTUI par ma collègue Diane Rego. Et pour ma part, je me suis occupée d'insérer une brique de traitement automatique des langues dans ce projet, afin de pouvoir encoder automatiquement en XMLTUI les entités nommées présentes dans les rapports d'opération. On va expliquer juste après qu'est-ce que ça veut dire, mais donc, de manière générale, le projet ARCH vise à améliorer l'exploration et la diffusion des rapports d'opération et donc la réutilisation de leurs données. La reconnaissance des entités nommées, qu'est-ce que c'est ? Les entités nommées, ce sont des concepts qui vont être trouvables dans des documents. Donc ici, vous avez une phrase d'exemple avec « La ville de Lyon accueille la 12e édition des journées du réseau Médicis ». Et on peut, dans cette phrase, dire que Lyon est une entité nommée de type localisation et réseau Médicis, une entité nommée de type organisme. Mais vous pouvez vous en douter, les modèles actuels de reconnaissance des entités nommées, ils vont être trop vagues pour être appliquées à un cas de niche tel que l'archéologie ou n'importe quel autre domaine scientifique. Et donc, il nous a fallu entraîner un modèle qui soit capable de reconnaître des entités nommées propres à l'archéologie. Donc, avec ARCH, le modèle a été entraîné pour reconnaître une quinzaine d'entités nommées. Et par exemple, ce sont des entités nommées relatives au mobilier archéologique, aux structures archéologiques, aux matériaux, aux espèces et taxons, etc. Comment est-ce qu'on a fait ça ? On a eu recours à l'apprentissage machine supervisé. Donc, très synthétiquement, comment est-ce que ça marche ? On va fournir un algorithme des données et les résultats que nous attendons sur ces données. Et ainsi, l'algorithme va pouvoir mouliner et nous rendre un modèle qui sera normalement capable de réaliser des opérations similaires. Pour obtenir nos données et nos résultats attendus sur nos données, nous avons eu recours à de l'annotation. Comme son nom le laisse suggérer, cela consiste à annoter du texte afin de signaler, pour notre cas, les entités nommées. Donc, par exemple, cela revient à dire que Fos est une entité nommée de type structure, que Orge est une entité nommée de type espèce, etc., etc. Pour faire ceci, nous avons eu recours à deux outils qui sont gratuits et qui sont même open source. Pour l'annotation, nous avons utilisé Inception, qui est développé par l'Université technique de Darmstadt en Allemagne. Et pour l'entraînement et l'évaluation de nos modèles, nous avons utilisé la librairie de traitement automatique des langues SPACEY, qui est donc une librairie qui peut être utilisée en Python et qui est développée par la société Explosion AI. Soulignons que ce sont deux outils que nous avions déjà manipulés à l'INRAP par le passé, ceci dans le cadre du projet européen Ariadne+, mais à l'époque, cela avait été fait de manière un peu plus timide, parce que c'était le moment où on expérimentait vraiment, on commençait à expérimenter avec le traitement automatique des langues. Et donc oui, il y avait d'une part un corpus annoté qui était beaucoup plus réduit, et d'autre part, il y avait moins d'entités nommées qui étaient recherchées. Parce que, vous vous en doutez, pour avoir un modèle qui soit le plus efficace possible, il faut que ce modèle ait un corpus idéalement assez conséquent afin de pouvoir donner le plus d'exemples possibles au modèle. Justement, pour le projet Arche, notre corpus annoté se compose de 21 rapports de fouilles, ce qui comprend en pratique plus de 82 000 entités nommées. Alors tout n'a pas été fait complètement manuellement, heureusement. Nous étions justement aidés des modèles créés dans le cadre du du projet Ariadne+, afin de pré-annoter nos documents. Et donc après, il a fallu seulement rectifier l'annotation et donc aussi notamment l'enrichir avec toutes les nouvelles entités que nous voulions rechercher. Et comme vous pouvez le voir avec l'illustration qui montre la distribution des entités nommées au sein du corpus annoté, nous avons dans tous les cas plusieurs centaines d'exemples pour chaque type d'entité nommée, voire même plusieurs milliers pour celles qui sont le plus répandues dans les rapports d'opération, donc typiquement les structures, le mobilier et les identifiants. Sans grande surprise. Merci. Pour ce qui est des résultats, nous avons entraîné deux types de modèles, qui étaient les deux types de modèles donnés par Spacy. Donc d'une part, un modèle que l'on va qualifier de léger, parce que peu gourmand en ressources, mais qui, en contrepartie, est moins précis. Donc ce modèle est efficace à 74%. Et d'autre part, nous avons entraîné un modèle que l'on va qualifier de lourd, car plus gourmand en données, mais qui, heureusement, est plus efficace. Et comme vous pouvez le voir, il a gagné 10 points sur son collègue. Et en bas, vous avez un exemple de prédiction qui a été réalisé par ce fameux modèle, avec donc des entités nommées de personnes, d'organismes, d'espèces, de chronologie, etc. Je ne vais pas avoir le temps de la présenté très en détail, mais sachez qu'une application démo a été créée sur la plateforme Hugging Face qui permet de donner à manipuler les modèles qui ont été créés dans le cadre du projet Arche. Donc vous pouvez par exemple utiliser du texte libre, vous pouvez importer des documents plein texte ou des documents en XMLTEI et ainsi visualiser les entités nommées présentes dans ce texte et les télécharger sous divers formats. Sachez également que les modèles qui ont été créés dans le cadre du projet Arche sont également mis à disposition via Hugging Face sous licence Creative Commons. Pour ce qui est des pistes de développement, parce que donc, pour le moment le modèle existe mais il n'est pas encore implémenté, mais donc nous pourrions imaginer un appariement des entités nommées à une base de connaissances, donc par exemple qui a été évoqué précédemment, ceci au travers de l'encodage XMLTEI afin de pouvoir harmoniser nos terminologies. Donc typiquement, à nouveau pour le 8e siècle, on aurait toutes les différentes façons de dénommer le 8e siècle qui pointeraient vers l'entrée 8e siècle dans une base de connaissances et ainsi on aurait quelque chose qui soit beaucoup plus utilisable par des ordinateurs. On pourrait également penser à utiliser, alors avec encore quelques opérations supplémentaires, mais donc à implémenter ce genre de technologie à un moteur de recherche afin de pouvoir faire des recherches plus fines sur les documents, typiquement justement pour trouver des gobelets du 8e siècle de notre ère qui nous intéressent décidément énormément. Et cette fois-ci, on aurait donc de meilleures chances d'avoir des documents qui croisent ces deux informations. Voilà. Donc pour ce qui est des bits possibles, il s'agit, donc comme dit à l'instant, de faire des requêtes plus fines et plus complexes sur les documents. On pourrait également penser, par exemple, de manière plus générale, à peupler automatiquement des bases de données, à aider à la génération de métadonnées, mais également faciliter la consultation des documents grâce à l'encodage XMLTEI. Il s'agirait, par exemple, de pouvoir facilement retrouver où est-ce que dans les rapports d'opération nous parlons de gobelets du 8e siècle de notre ère. Et il y a également d'autres possibilités qui sont offertes parce que, imaginons que mon fameux gobelet ait été identifié comme étant le gobelet 2A. Si jamais je clique, par exemple, sur mon gobelet 2A dans le corps du texte, je pourrais être automatiquement redirigé vers l'inventaire qui est présent d'ailleurs dans chaque rapport d'opération. Et ainsi, on aurait toutes les informations relatives à mon fameux gobelet 2A qui me tient beaucoup à cœur. Et encore, nous pouvons noter que ce genre de technologie permettrait d'avoir une meilleure appréhension des larges volumes de données, par exemple de pouvoir détecter des tendances. Et donc ça, ça pourrait par exemple enrichir en retour typiquement des bases de connaissances comme PacTools, qui pourraient ainsi se mettre à jour des différents mots de vocabulaire qui sont de plus en plus par exemple utilisés par les archéologues. Et donc ainsi PacTools ou n'importe quelle autre base de connaissances évidemment, pourrait être plus efficace. Et en retour, le moteur de recherche de l'INRAP, qui se base sur une base de connaissances, pourrait également être plus efficace. Et donc, de manière générale, cela peut permettre d'aider au comblement du vide existant entre les données de l'archéologie préventive et les données de la recherche. Alors, je vais me dépêcher, mais très rapidement, j'ai aussi quelques exemples archéologiques un peu plus concrets pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. Donc, tout d'abord, le moteur de recherche Agnes, qui a été développé par Alex Brandsen dans le cadre de sa thèse à l'université de Leiden aux Pays-Bas, qui vient justement être un moteur de recherche un peu plus intelligent afin de requêter, donc ici ce sont des rapports d'opérations néerlandais, et on peut voir l'apport de ce genre de technologie parce que dans un cas d'étude qui a été mené sur les crémations altomédiévales, Agnes a permis de découvrir 22 nouveaux sites qui étaient jusque-là inconnus ou négligés en tout cas par la recherche, alors que dans les 20 années précédant cette étude, seulement 9 sites de ce genre avaient été découverts. Donc on peut voir qu'il y a quand même un gain qui peut être assez important dans la recherche, même si Agnes avait retourné beaucoup d'exemples non pertinents. Donc c'est quand même quelque chose qui mérite encore d'être travaillé, mais il y a des pistes de potentialité. Évoquons d'ailleurs que Alex Brandsen est en train de développer le moteur de recherche dans le cadre du projet EXALT afin qu'il puisse prendre en compte l'anglais et l'allemand. Alors ça je vais passer, mais c'est quelque chose de similaire appliqué à la numismatique. Et enfin, pour un exemple cette fois-ci, pour aller plus loin que faire des recherches en archéologie, mais là c'est vraiment sur l'écriture archéologique, nous avons une étude qui a été menée sur la littérature archéologique en Belgique flamande et aux Pays-Bas, qui s'est intéressée à la façon dont les archéologues écrivaient et leur évolution dans le temps. Et cette étude a donc permis d'avoir plusieurs résultats, par exemple, comme illustré ici, une baisse de la richesse lexicale, de la richesse du vocabulaire dans la littérature archéologique, notamment depuis une vingtaine d'années. Et les chercheurs associent ça à l'arrivée du secteur concurrentiel en archéologie. Donc avec tout ça, j'espère que j'ai pu vous montrer que l'intelligence artificielle pouvait également être une aide, notamment dans la recherche. Et je vous remercie pour votre attention et je remercie le réseau Medici pour cette invitation et cette organisation, et je vous laisse avec la bibliographie.
Merci beaucoup.